Salut, bienvenue dans Lilith, Martine et les autres, en direct sur Radio Canu. Aujourd'hui dans les studios, nous recevons Florence et Karen qui vont nous parler des travailleuses du sexe. Alors, Karen est elle-même travailleuse du sexe et les deux sont militantes pour Caberia et elles sont aussi membres du collectif d'organisation des putains de rencontres. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces associations collectives dont je viens de donner le nom ?
Alors, Caberia, c'est une asso de santé communautaire avec des travailleuses du sexe, donc qui fait essentiellement de la prévention sida, de l'accès aux soins et de l'accès aux droits avec les prostituées et les travailleuses du sexe, et du coup qui s'implique pour les soutenir dans leurs revendications pour le respect de leurs droits et la lutte contre les violences qui leur sont faites. Le SRAS, tu veux nous...
Alors, moi, donc, je suis, comme tu l'as dit, militante, mais également prostituée. Donc, effectivement, j'ai rejoint Caberia, qui était dans le même optique de ce que je pensais de la liberté des droits aux travailleuses du sexe. Mais on a également créé un syndicat donc, qui s'appelle le SRAS, qui est notre premier syndicat des travailleuses du sexe. Et en même temps, voilà, donc qui milite aussi pour le droit à l'accès à toutes les choses que toute femme normale a droit, comme un appartement ou la santé, voilà. Donc je fais partie aussi de ça. L'organisation aussi également de ce qui va se dérouler comme le 17 décembre, on peut en parler je pense, qui est justement la journée internationale des violences faites aux travailleuses du sexe, donc c'est un grand rassemblement aussi qui va se faire place Jean Massé. Donc voilà, tout ça pour militer, pour dire que ben, les prostituées ont des droits et qu'il faut les écouter.
Et en fait, du coup, là, on a récemment monté un collectif qui s'appelle le collectif d'organisation des putains de rencontres, puisqu'en fait, en juin 2015, on va organiser à Lyon les rencontres nationales des travailleuses du sexe. Et mais ça, on vous en parlera un petit peu plus peut-être à la fin de l'émission. Et en amont de ces rencontres, on organise plusieurs événements tout au long de l'année. Donc
voilà, comme cette journée du 17 décembre. 17 décembre, pardon, qui sera donc place Jean Massé, où tout le monde peut venir, bien sûr. Hein. Il y aura du vin chaud, il y aura de quoi se réchauffer, parce que nous, on va passer 4 heures quand même à militer devant. Donc voilà, c'est une manière aussi de se retrouver toutes et d'échanger bah, toute cette année ou toutes les difficultés qu'on a rencontrées.
Et du coup, en fait, nous, ce qu'on aurait aimé, c'est expliquer un petit peu. Rapidement, quelles sont les conditions de vie des travailleuses du sexe et comment c'est difficile pour elles d'exercer cette activité en France, parce que en France c'est pas illégal d'être travailleuse du sexe, mais en fait tous les moyens pour exercer le travail du sexe sont pénalisés, et que du coup finalement ça, au niveau des conditions de vie, ça rend la vie pour les personnes super compliquée, que ça soit en matière de questions administratives ou de logement ou de tout un tas de choses.
Florence, surtout qu'il existe une loi sur le proxénétisme de soutien, ce qu'on appelle, donc qui est complètement une aberration, dans le sens où nous n'avons pas le droit de nous associer pour nous aider entre nous, donc déjà ce qui est une volonté de départager, j'allais dire, toute l'aide qui peut être apportée aux prostituées. Il faut savoir aussi que cette loi pénalise l'enfant d'une prostituée dès qu'il a 18 ans, c'est-à-dire qu'on le considère comme un proxénète et non plus comme le fils de la prostituée. Nous n'avons pas de fiche de salaire, donc nous ne pouvons pas prétendre ni à un crédit, ni à louer un appartement dans des prix raisonnables, j'allais dire. Donc les filles sont obligées de se loger dans des hôtels qui coûtent très cher. Donc quand on fait le calcul, elles auraient largement le moyen de payer un loyer de 700 ou 800 euros, et que là elles sortent 1000 ou 1500 euros simplement pour se loger. Donc déjà c'est très compliqué.
Injuste en tout cas.
Injuste en tout cas, tout à fait. Alors qu'elles travaillent, elles ont un salaire, donc je ne vois pas pourquoi on ne leur autorise pas simplement l'accès au logement. Voilà, il faut savoir aussi que dans cette loi, le fait de s'entraider donc est pénalisable, c'est-à-dire que si je demande de l'aide en tant que prostituée, je pénalise la personne qui va m'apporter cette aide. On peut, et on a vu, des propriétaires tomber pour proxénétisme parce qu'ils louaient un appartement hors fiche de paye, hors tout ça. Voilà, c'est une manière aussi d'isoler de plus en plus la vie qu'elle mène, et c'est déjà très compliqué le travail par lui-même. Donc si en plus tout à côté on n'a plus le droit à rien, ça devient vraiment compliqué. Donc déjà, premier temps, changer cette loi du proxénétisme de soutien qui est une aberration. On a un code du travail, c'est un travail qu'on fait, c'est pas autre chose, ça s'appelle pas autrement, donc c'est un travail. On a des lois qui régissent le code du travail, ça nous suffirait largement, c'est pas la peine d'aller en rajouter uniquement pour cette profession, voilà.
En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que la loi sur le proxénétisme, elle a été faite soi-disant pour protéger les prostituées, mais sauf qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a suffisamment de lois dans l'arsenal juridique en France pour pénaliser l'exploitation, la violence ou les abus. Et du coup, le fait qu'il existe une loi particulière censée protéger les travailleuses du sexe, en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée une catégorie à part.
Oui, une stigmatisation un peu.
Ouais, et où du coup, si par exemple, rien que d'apporter de l'aide ou du soutien à une travailleuse du sexe, c'est pénalisé. Si moi, je pars en vacances et que je propose à Karen d'utiliser mon appart pendant que je suis en vacances pour faire ses clients, même si je ne touche pas un centime, je suis proxénète, aux yeux de la loi. Donc en fait, on dit, mais en fait, on n'a pas besoin de cette loi parce que finalement, elle empêche le soutien. Elle empêche, par exemple, des travailleuses du sexe de décider de s'associer entre elles, de bosser sans patron, de dire on loue un lieu ensemble et ensemble on paye quelqu'un charges. Pour faire le ménage, quelqu'un pour faire la surveillance, quelqu'un pour prendre les rendez-vous, j'en sais rien. Et en fait, elles peuvent pas faire ça parce qu'elles peuvent être considérées comme proxénètes les unes des autres.
Alors, il faut savoir quand même que dans la loi aussi, ma coiffeuse, par exemple, pourrait être considérée comme une proxénète de l'ordre où je lui donne de l'argent, mais j'ai quand même un échange de services, c'est pas de l'argent dans le vent. Il faut voir qu'aujourd'hui, avec les arrêtés municipaux, on donne de l'argent dans les caisses de la municipalité qui, eux, ne sont pas inquiétés de proxénétisme. Pourtant, c'est de l'argent qui est pris aux prostituées. Donc, s'il y a deux poids, deux mesures pour des lois, ou on fait les lois et on les applique pour tout le monde, ou on n'en fait pas. Mais pas que pour une catégorie de personnes. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, j'estime que la mairie est un proxénète pour moi. Je le dis haut et fort. Puisque la loi me le confirme, j'en profite pour le dire. Voilà.
Et en fait, du coup, ça crée une situation très particulière où il n'y a rien dans la loi qui dit clairement qu'il ne faut pas se prostituer. Mais en fait, si on se prostitue, on n'a pas une sécurité sociale qui va avec. Et puis on n'a pas de droit à la retraite. Et puis on n'a pas de chômage, etc., etc., etc. Et puis en fait, en gros, on a le droit de se prostituer, mais si on attend le client dans la rue, eh ben, c'est du racolage passif depuis 2003, depuis la loi. Donc finalement, oui, on a le droit, mais tous les moyens qu'on utilise pour exercer la prostitution, ils sont pas légaux. Donc en fait, on marche complètement sur la tête.
Tout à fait, une loi complètement aberrante. C'est où on prend le taureau par les cornes et dire bon ben voilà, on est un pays abolitionniste. On interdit les prostituées, ou si la loi ne dit pas qu'une prostituée n'a pas le droit de se prostituer, mais qu'on la laisse travailler, et qu'on lui donne le droit de tout un chacun, que ça soit un homme ou une femme, qui puisse avoir les mêmes droits que monsieur tout le monde qui va travailler au supermarché, ou qui va travailler chez son patron. Voilà, on veut... Je vois pas pourquoi il y aurait une différence. On prend les filles qui font du porno, donc des films porno, sont considérées comme des stars, des ont actrices, des contrats, voilà. Exactement, elles font exactement le même travail que nous. Elles sont payées pour du sexe. Donc faut pas, au bout d'un moment, se voiler la face. C'est ou d'un côté ou de l'autre. Mais on peut pas être à cheval sur les deux. Et surtout pas quand ça arrange. Parce que là, de prendre 300 ou 400 000 euros à l'année pour une mairie, par des PV, par détournement de PV, en mettant des arrêtés municipaux, c'est pas gênant. Donc il faut qu'on m'explique où est la limite et qui a droit et qui a pas droit. Voilà.
Et en fait, ce qui est hyper compliqué aussi, c'est que du coup, avec cette loi sur le racolage, les prostituées, elles deviennent une population qui est super contrôlée par la police. Parce que du coup, comme elles ont le droit de se prostituer, mais qu'elles n'ont pas le droit d'être dans la rue et d'aguicher, de racoler entre guillemets le client dans la rue, et du coup, les flics y passent pour surveiller.
Et qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des camionnettes qui stationnent pour pouvoir travailler dedans, évidemment, là, ça complique beaucoup l'existence pour une prostituée.
Alors du coup, les flics y passent, donc ça veut dire que c'est aussi... Il y a une présence policière avec un harcèlement policier qui est fort, et qu'il peut y avoir des amendes, et qu'à chaque fois qu'une travailleuse du sexe, elle prend une amende, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'elle bosse encore plus pour payer en plus le prix de l'amende.
Oui, c'est logique.
Donc toute cette répression...
des amendes et des abus.
Toute la répression, elle précarise beaucoup les personnes qui vont devoir se cacher pour bosser parce qu'elles ont peur d'être arrêtées par la police, se planquer, etc., se tortiller dans tous les sens, se déplacer. Et en fait, du coup, ça fait travailler plus longtemps pour finalement avoir moins d'argent et en même temps devoir en plus payer des amendes ou des PV ou des choses comme ça, et ce qui fait qu'on a besoin d'avoir plus parce qu'on a un poste de charge supplémentaire. Et donc du coup, depuis le début des années 2000 où il y a une répression forte sur les travailleuses du sexe et les prostituées qui exercent la répression est très forte pour les gens qui bossent dans la rue.
Et tout à fait.
On observe une dégradation des conditions de vie des personnes et une précarité vraiment grandissante.
Et on n'a plus également aussi le respect du client, c'est-à-dire que si on est forte pour pouvoir dire bah non, je ne veux pas de cette prestation ou non, je ne veux pas de ce client, si le client sait que s'il appelle la police, c'est nous qui aurons tort et c'est nous qui allons avoir des problèmes, je pense que ça le réconforte dans sa supériorité et c'est là où c'est dangereux aussi, parce qu'il va avoir le dessus sur la prostituée, alors que depuis la nuit des temps, il n'a jamais été question qu'un client ait le dessus sur une prostituée. C'est toujours la prostituée qui décide des tarifs, des manières de pratiquer. On peut imposer aujourd'hui le préservatif. Il y a quelques mois en arrière encore, on ne pouvait plus. Ça devient catastrophique parce que le client, il fait quoi ? Ben, je m'en fous, de toute façon, j'irai ailleurs. Donc, on sent bien qu'aujourd'hui, c'est le client qui a le pouvoir et c'est plus la prostituée. Et c'est ce qu'on a défendu depuis des années. On ne peut pas retourner en arrière. C'est pas possible.
Et puis, il faut pas oublier aussi que cette répression forte, elle a encore plus de conséquences pour les personnes, pour les femmes qui sont migrantes et qui ont pas de papier. Parce que, pour elles, souvent, cette activité-là, c'est une des seules qu'elles peuvent exercer parce qu'elles ont pas de papier, donc pas de droit au travail, etc., etc. Et que cette répression-là, elle se traduit aussi pour elle par des arrestations, des mises en centre de rétention et des expulsions.
Cela dit, ce n'est pas que la prostitution qui... Toute personne sans papier va être obligatoirement victime de traite d'êtres humains, que ce soit dans la prostitution ou dans autre chose. Hein. Voilà.
Peut-être on va écouter une petite chanson.
Allez,
et on revient à vous.
On y va.
Vender la guerra, vender. bien voilà, vous écoutez toujours Lilith Martine et les autres dans la radio Cani. Nous sommes ensemble avec Florence et Keren, on vous l'écoute.
Et du coup, en fait, un des axes de la répression sur les travailleuses du sexe et les prostituées à Lyon, c'est la politique de la mairie par rapport aux arrêtés municipaux. Donc en fait, en 2002, il y a eu, c'était un premier événement en France, il y a la mairie de Lyon qui a pris un arrêté municipal pour interdire aux travailleuses du sexe et aux prostituées de rue de bosser entre hôtels de ville et Perrache. Et du coup, les personnes se sont éloignées, elles ont pris des camionnettes aussi en plus, et elles se sont éloignées, elles sont allées travailler au-delà de la gare de Perrache, dans le quartier qui est derrière la gare. Et en fait, après, les arrêtés municipaux se sont multipliés, mais c'était plus pour interdire la prostitution, mais c'était pour dire « Ah, on interdit le stationnement des camionnettes. Alors, vous pouvez plus vous garer dans telle rue. » Alors bon, les femmes, elles déplaçaient leurs camionnettes dans la rue d'à côté. « Ah, puis vous pouvez plus vous garer dans telle rue et dans telle rue. » Et il y a eu, de 2002 à 2007, toute une série d'arrêtés municipaux qui réduisaient le périmètre dans lequel elles étaient tolérées. Donc ça veut dire qu'en gros, les personnes étaient un peu les unes sur les autres, et qu'à chaque fois, ça crée un peu de difficulté, de tension, et qu'à chaque fois, les riverains mettaient un gros coup de pression sur la mairie, et qu'il y avait un nouvel arrêté municipal. Et en 2007, il y a eu un arrêté qui a interdit le stationnement dans tout le quartier de Perrache. Et là, du coup, il y a des gens qui sont allés à Gerland. Et après, ça a continué à Gerland, même topo, on interdit telle rue, telle rue, telle rue, telle rue, et donc depuis 2007, c'est comme ça, mais sur un autre quartier. Ce qui résout absolument pas le problème, parce que ça transfère le problème de cohabitation entre les travailleuses du sexe et les riverains, ça le transfère sur un autre quartier. Il y a toujours derrière des intérêts économiques, tout le temps, parce qu'à Perrache, c'est pour refaire, c'était pour toute la réhabilitation du quartier, la sucrière et tout ça. Maintenant, à Gerland, il y a d'autres intérêts économiques. Et là, récemment, il y a eu un nouvel arrêté municipal qui dit non seulement, alors c'est, vous n'avez pas le droit de stationner, mais alors maintenant en plus vous n'avez même pas le droit de rouler, c'est-à-dire que les prostituées uniquement n'ont pas le droit de circuler dans telle et telle rue, entre telle heure et telle heure.
Voilà. Il a été installé donc des barrières, des agents de sécurité. Tout ça, ça a un coût, bien sûr. Hein. Donc, je ne sais pas qui paye, mais sûrement les impôts locaux. Donc on prend des décisions d'interdire des périmètres de circulation pour vendre deux ou trois bureaux qui restent, voilà, qui sont invendables, parce que effectivement les gens disent que vu qu'il y a des prostituées dans le secteur, on ne peut on va pas acheter et construire une société ici. Moi je sais que j'ai travaillé très longtemps à Gerland. C'est pas ça qui dérangeait. Je pense pas que ça soit le problème. Il est pas là. Il est pas qu'il y ait 10 camionnettes en bas. En plus, les filles travaillaient la nuit. La nuit, il y a aucune société qui est ouverte. Je trouve même qu'on a même un rôle de sécurité dans l'histoire, puisque on était là quand même pour garder les sociétés aussi qui... Non, mais je plaisante pas. Ça nous est arrivé de faire partir des voleurs parce que, ils venaient attaquer une société en face qu'on connaissait bien. Moi, je me souviens d'une anecdote d'une femme de ménage qui finissait le soir à 10 heures. Je la voyais tout le temps passer devant mon camion, on se disait bonjour de loin, puis à force, on a fini par discuter. Un jour, en sortant donc de la zone, elle s'est fait emmerder par un gars qui a insisté, elle a eu peur. Le lendemain, elle est venue me voir, elle me dit bon, j'ai pas peur quand vous êtes là, je me sens en sécurité de traverser cette zone, sinon ça serait tout noir, oui, et il y aurait personne. Oui. Donc elle me dit, je me sens quelque part en sécurité de traverser, mais j'ai eu peur. Je dis, mais dans ce cas-là, faut revenez vers nous. Nous, on sait gérer ce genre de clients violents ou quoi que ce soit, donc venez vers nous, n'hésitez pas. Elle me dit, avec vous, je me sens en sécurité, je pense toujours à elle, parce que je me dis, maintenant, je sais pas comment elle doit faire, la pauvre, pour sortir à 10h du soir du bureau. Donc voilà, quelque part, on n'est pas que nuisible. Je ne dis pas qu'on n'a pas des responsabilités. On a essayé avec les riverains du 7e de faire une réunion, d'essayer de leur expliquer les problèmes que l'on rencontrait. Le fait qu'on soit 10 dans une rue, c'est pas parce qu'on en a envie, c'est parce qu'on nous interdit de nous mettre à la rue à côté. Donc on est obligé, la concentration fait que. Et puis de travailler les unes à côté des autres nous permet aussi de nous protéger, puisque quand on appelle la police, ils viennent pas. Ou quand ils viennent, c'est une demi-heure après la bataille. Donc évidemment, il faut bien que nous on s'arme contre des types qui viendraient nous chercher des histoires. Donc tout ça c'est pas involontaire si on fait tout ça. Maintenant que la population ne le comprenne pas, je veux bien. C'est bien pour ça qu'on est là pour expliquer. Ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions, nous en tant que prostituées. On sait très bien qu'on gêne les riverains. On le sait. Moi, je serais la première si j'habitais en ville à me dire, mais enfin, j'ai 40 camions en bas de chez moi. Franchement, ça m'éclate pas. Mais bon, on le fait pour certaines raisons. Ils n'ont qu'à nous laisser les ouvertures libres des rues et les filles se poseront 2-3 camions par rue. C'est déjà moins énorme qu'une quinzaine. Voilà, il y a toutes des solutions. On a essayé, on a discuté, on a essayé d'apporter des solutions. On a toujours été face à un mur de répression, d'interdiction, de voilà, il y a de l'argent à gagner, il y a de l'argent à prendre. On va leur prendre sans s'occuper de ce que nous on subit derrière, parce que payer les PV c'est bien. Moi j'ai des copines, elles ont 30 000 euros de PV. Vous imaginez le prix? C'est de l'argent qu'elles ne peuvent pas investir dans leur maison, dans leur famille, donc c'est pas normal qu'on nous prenne de l'argent comme ça en toute impunité, puis après nous dire bah non, on n'est pas des proxénètes. Voilà. Faut y arrêter, je pense, là.
Hein. Et c'est vrai que du coup, l'attitude de la mairie de Lyon par rapport aux arrêtés municipaux, elle est super. On peut vraiment la questionner, parce qu'en fait, en réduisant le périmètre sur lesquels les travailleuses du sexe sont tolérées, forcément, ça implique de la concurrence, et donc, du coup, des éclats de voix, etc., etc. Et du coup, en fait, on dirait un peu qu'ils créent le problème.
Mais c'est un moment, des lois qui enveniment les choses. Quoi.
Non, mais ils le savent. Ils ont déjà l'expérience de PRH. Ils savent comment faire. Ils savent qu'en regroupant les filles vont commencer à se battre, que ça va être le bordel entre guillemets. Excusez-moi pour les auditeurs, mais c'est la vérité. Et après, ils pourront venir en constatant et en disant, ah, vous voyez, c'est pas nous, mais regardez un peu le bordel qu'elles foutent dans les rues.
Et en fait, c'est vraiment ça. Il y a quelques années en arrière, il y avait un problème à PRH parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Et que du coup, il y a l'élu de la ville de Lyon qui s'occupe de la santé. Elle disait, il faut faire mettre des toilettes dans le quartier. Ouais. Et en fait, la réponse, c'était, ah ben non, parce que si on met des toilettes, elles vont rester, les prostituées, après. Alors du coup, il ne faut pas mettre de toilettes. Donc du coup, en fait, ok, on fait tout pour que ça s'envenime. Et puis bon, l'arrêté municipal, il faut pas oublier, c'est pas juste un truc qui... c'est un truc... Il y a vraiment un impact fort sur la précarité des personnes, parce qu'il y a des PV derrière. Il y a vraiment...
Des mises en fourrière. Il y a des mises en fourrière. 136 euros de mise en fourrière, plus le PV. Donc vous voyez, à chaque fois que vous devez... Il y a eu quelques années, on gagnait encore suffisamment notre vie pour sortir le camion, mais quand c'est une fois par jour, c'est plus possible. Donc il y a bien, on voit bien qu'il y a un moment, ce n'est pas une manière de traiter et d'une des femmes, des mères, voilà, il y a d'autres manières que ça. Seulement ces gens-là ne veulent pas entendre. Donc
il faut voir les détachements policiers aussi qui sont mis en place quand il y a un nouvel arrêté municipal ou quand il y a une grosse opération policière dans un quartier où il y a des travailleuses du sexe. C'est je ne sais combien de camions avec des flics, ça peut être la nationale, la municipale, avec des CRS, etc.
On a 5 corps de police, municipale, nationale, BAC, MEURS, et j'ai même eu les CRS. Donc pour dire qu'ils sont quand même venus avec un hélicoptère pour braquer les phares de l'hélicoptère en haut pour... Non mais attendez, on fait ça même aux plus grands criminels. On le fait pas. Donc je veux dire, nous on ne vole personne. Ouais. On fait un métier, certes c'est du sexe, ça en déplaît à certains, on s'en fout. Nous ce qu'on aime, c'est faire notre métier. Mais de là à ce que l'argent des contribuables passe dans des hélicoptères, dans des cadrons de CRS qui... Mais c'est... On se dit c'est pas possible, ça dépasse l'entendement, quoi.
Et du coup, en fait, c'est vrai que à chaque fois, les solutions qui sont proposées, c'est toujours des solutions qui sont répressives. Et que depuis 2 ans, oui, à peu près, il y a un nouveau projet de loi pour pénaliser, qui vise à pénaliser les clients des prostituées, en disant, en gros, c'est pas la faute des prostituées, il faut arrêter de faire des lois répressives sur les prostituées. Alors du coup, ben comme quand même on est l'État français et on estime que la prostitution c'est un problème, du coup, on va pénaliser les clients. En se disant, au moins, si on pénalise les méchants clients qui achètent, on a une action sur la demande, et du coup, il n'y aura plus d'offres en face. Bon.
Moi, je pense que c'est plus un moyen de faire payer, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un autre moyen de faire payer une contribution aux clients. Parce que les prostituées, ils nous ont saigné comme c'est pas possible. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, voilà, moi j'ai des copines, elles ne s'en remettront peut-être jamais de tout ce qu'elles ont à payer pour l'État. Quand au bout d'un moment ça c'est saturé, qu'est-ce qu'on fait? On fait une loi qui va permettre d'en prendre ailleurs. Et la pénalisation des clients fait partie. Parce que si demain, moi, on me dit que la police fait des descentes dans des 5 étoiles pour aller prendre le client qui s'est payé 5 escortes de luxe ou machin, moi je dis ok, pas de problème. Mais on sait très bien que ça ne se verra pas dans ce genre de sphère. On va venir taper sur qui? Sur le pauvre client qui a sa femme à la maison et qui a peur justement de tout perdre. Donc là, c'est encore un autre moyen, mais c'est un moyen qui, pour le coup, est complètement aberrant, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas une source non plus de revenus. Et puis, je vois mal, je sais pas, ils ont rien à foutre, les flics. Il n'y a pas des gens arrêtés. Vous les voyez derrière chaque camion de prostituées, choper le client vite fait. Et puis, rien ne dit qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas parce qu'il est monté qu'il s'est passé quelque chose. Donc, voilà, je veux dire, de toute façon, on en vient au ridicule. Et je pense que ça, ils savent faire. Voilà, ils savent se rendre ridicules et ils en profitent, la preuve.
Et en fait, le problème dans cette loi, c'est que y a vraiment des gens qui pensent que la prostitution, c'est un problème et qu'il faut arrêter avec ça et qu'il faut trouver tous les moyens pour empêcher que la prostitution, ça existe. Mais en vrai, nous, on est plutôt dans une optique de se dire ce qui est important pour nous, c'est de soutenir les travailleuses du sexe pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs droits. Et quand on regarde la loi qui pénalise les clients, ben moi, personne n'est arrivé à m'expliquer en vrai comment ça va aider quelqu'un. Comment ça va aider une travailleuse du sexe précaire, par exemple, qui a des galères de fric? Comment ça va l'aider si on pénalise ses clients? Ça lui enlève sa source de revenus. Alors, soi-disant, dans la loi, il y a tout un panel qui est accompagnement social pour les personnes qui veulent sortir de la prostitution, etc.
300 euros par mois.
C'est du flan. On sait très bien, en fait, on sait très bien que c'est du flan. Et que du coup, ce qui va être proposé aux gens, éventuellement, c'est d'être au RSA. Avec des mesures de flicage derrière, ouais, pour voir si les nanas elles vont pas faire des passes ou etc. Donc ça déjà c'est hallucinant qu'on propose ce genre d'accompagnement où il y a quand même un contrôle, ouais, sur l'activité.
C'est pas vraiment l'accompagnement, quoi.
C'est ça l'accompagnement, non.
Ouais. Et du coup en fait qu'on fasse croire à personne, il y a pas de boulot. C'est pas vrai qu'on va trouver un boulot, non, à ces personnes, même quand les personnes elles aimeraient bien changer d'activité. C'est pas vrai qu'on va leur trouver un boulot. Et donc du coup on va juste leur enlever une source de revenus. Alors moi qu'on m'explique en quoi ça va aider la nana qui a pas de papier, qui galère sur le tapin, etc. Ça va l'aider en quoi que son client il soit pénalisé? En rien. Ouais. Juste, elle aura pas de thune.
Ça va satisfaire, ouais, tous les abolos qui pensent que le sexe est une bénédiction.
Et sur cette belle parole, nous allons écouter une autre petite musique. Alors attendez, je la mets en route. Voilà.
vous voyez, on est super bien calés.
Bien excitées, les filles.
On est vraiment super bien calés. On n'arrête pas de faire des petites bêtises. Voilà. On parle alors qu'il ne faut pas parler. Et voilà.
En même temps, ce n'est pas notre métier.
C'est le mien. Oui, j'ai raté. Ok. Et donc, juste pour revenir au sujet, nous parlons aujourd'hui, dans l'élite Martine et les autres, des travailleuses du sexe avec Karen et Florence.
Et du coup, on était en train de parler du projet de loi sur la pénalisation des clients. Et en fait, il y a eu une grosse mobilisation autour du STRAS, donc le syndicat du travail sexuel. Et il y a plein de gens qui se sont mobilisés contre ce projet de loi donc depuis 2012. Donc il y a eu, ça consiste à rencontrer des politiques, à faire des tribunes dans les journaux, à participer à des débats, à faire des rassemblements.
Et à se retrouver au Sénat. Et quand même, et oui, à se retrouver à la commission spéciale au Sénat quand même.
Oui, parce qu'en fait, du coup, le projet de loi, il a été voté par l'Assemblée et adopté par l'Assemblée nationale en décembre 2013. Ouais. Du coup, après, il a dû être examiné par le Sénat. Donc ça s'est fait au printemps. Ouais. Et là, le Sénat, ils ont fait un autre boulot. Ils ont mieux bossé que l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale n'a pas du tout voulu entendre les associations de travailleuses du sexe ou les associations de santé qui les soutiennent et qui appuient leur combat.
Personne n'a pu témoigner ou...
Si, juste les abolos. Ceux-là, on les écoute.
Juste les gens qui sont pour sortir les gens de la prostitution. D'accord. Eux, ils ont pu être écoutés par l'Assemblée. Mais en fait, au printemps, le Sénat a fait une commission spéciale sur le sujet. Et là, le Sénat a bien voulu rencontrer d'autres associations.
Tout à fait. Donc, on est allé, effectivement, expliquer. J'ai eu d'abord une première sénatrice qui était convaincue que c'était une violence faite aux femmes. J'ai essayé de lui démontrer que je ne parle pas de son métier, donc qu'elle ne parle pas du mien, puisque je suis quand même assez grande pour savoir à partir du moment où c'est une violence qui m'est faite ou qui ne l'est pas faite. Donc finalement, il en est quand même ressorti quelque chose de bon de cette commission, à savoir qu'ils se sont rendus compte. Ça fait quand même 4 ans qu'on leur dit, mais bon. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait deux sortes de prostitution. La prostitution choisie et la prostitution subie. Ce qui n'était pas gagné, puisque dès le départ, ils pensaient que c'était que subie. Bon, on a réussi quand même à leur faire comprendre et admettre qu'il y a aussi des prostituées qui font ce métier, qui en assument les responsabilités et qui se complètent parfaitement dans ce travail-là. Donc... ça a été dur, mais je pense que c'est ce qui a fait reculer. Donc, la loi a donc été repassée, c'est ça, au Sénat ? Non, repassée au...
La loi, en fait, au Sénat, elle n'a pas été adoptée en l'état.
En l'état. Après... Ils ont enlevé la pénalisation des clients de ce projet de loi. Il y avait aussi traite d'êtres humains. Enfin bon, tout était impliqué dans le côté. Et le côté pénalisation des clients a été ôté de cette loi.
D'accord.
On pensait avoir une petite victoire, ce qui était quand même une belle chose quand même, d'être arrivé jusque-là. Bah, sauf que c'était sans compter sur les abolitionnistes qui continuent indéfiniment de dire « Oui, mais non, c'est une violence faite aux femmes, les pauvres femmes, elles n'ont jamais le droit de rien dire, c'est des aliénés, nanani. » Bon. Donc maintenant, ils en sont à revouloir repasser cette loi. Donc il va falloir encore qu'on se rebatte. Je veux dire que rien n'est acquis. On est sans arrêt, quand on gagne une petite victoire, on avance d'un pas, on recule de 3. Donc c'est pas grave, nous on a que ça à foutre. Hein. Donc personnellement, qu'on combatte pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, on le fera de toute façon. Mais je veux dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter... d'avancer, reculer, pourquoi pas, peut-être, voilà, il faut se poser, il faut discuter, il faut prendre des gens qui sont réellement compétents. On voit maintenant enfin c'est même pas une asso, mais on voit des gens maintenant qui se mobilisent alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les prostituées, donc ils se permettent de donner des avis, de donner des alors qu'ils n'y connaissent absolument rien, ils n'ont jamais vu une prostituée ni de près ni de loin. Donc je pense qu'au bout d'un moment, l'État aussi, la responsabilité de l'État, c'est ça aussi, c'est d'écouter des gens qui sont sur le terrain, comme beaucoup d'associations, qui vont sur le terrain à la rencontre des prostituées, qui discutent avec elles, qui sont là pour faire le chemin, pour les accompagner, que ça soit aussi bien dans les démarches des papiers que, comme elle disait, donc pour qu'elle Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, faut se poser, on a une bonne intelligence et faut écouter aussi les gens qui ont quelque chose à dire. Voilà.
Parce qu'en fait, maintenant, ce qui se passe, du coup, comme la loi, elle n'est pas passée en l'état au Sénat, ça fait que les deux chambres ne sont pas d'accord. Assemblée et Sénat ne sont pas d'accord entre eux. Donc, il va falloir que ça repasse. Je crois qu'il faut qu'il y ait une commission paritaire Assemblée plus Sénat qui se mettent d'accord sur un projet de loi commun. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher la mobilisation, voilà. En expliquant qu'à chaque fois qu'on prendra des lois qui vont réprimer la prostitution, réprimer les travailleuses du sexe, réprimer leurs clients ou quoi que ce soit, l'impact il sera toujours sur les conditions de vie des prostituées. Et que ça, on le sait. On sait qu'il y a des pays où des lois comme ça, elles sont passées. Ça n'a pas arrêté la prostitution. Ça cache la prostitution.
Ça a empiré même, je dirais.
Ça dégrade les conditions de vie des personnes.
Tout à fait. C'est-à-dire que les pays qui ont adopté effectivement la prostitution comme un métier, on s'aperçoit qu'il y a de la traite d'êtres humains, on s'aperçoit qu'il y a de l'esclavagiste, on s'aperçoit que les filles, elles n'ont absolument rien de droit de dire. C'est comme ça, c'est pas autrement. On leur prend un pourcentage. Elles sont à la botte de la personne, du patron. C'est pour ça que si on scande dans les manifestations ni proxo ni patron, c'est qu'on sait pourquoi. On a maintenant aussi des exemples de pays où justement les prostituées sont libres. Je pense aussi par exemple en Thaïlande, où il y a eu la première maison close autogérée par les prostituées, ce qui est quand même pas rien dans un pays comme la Thaïlande. Mais je pense à la Nouvelle-Zélande, où effectivement ils ont adopté également ce système-là, qui convient très bien, que ça soit pour les prostituées, que ça soit pour les clients. Tout va bien. Donc pourquoi, quand tout va bien, on va chercher des pays où tout va mal? Hein? Bon, il y a des fois, il faudrait peut-être se poser un peu et réfléchir. Donc voilà.
Et en fait, du coup, par rapport à ce qui se passe le 17 décembre, parce que en fait là je suis en train de regarder l'heure et je vois l'heure qui avance,
c'est la
et nous on aurait trop aimé avoir 2 heures, 3 heures, comme ça on aurait parlé pendant toute une tonne de temps.
On reviendra après le 17,
voilà, pour nous raconter comment c'est
voilà.
Et du coup voilà, le 17 décembre, c'est mercredi prochain, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Donc c'est une journée qui existe depuis une petite dizaine d'années, mm-hmm. où il y a des choses qui se passent dans tous les pays du monde.
C'est là où on dénonce justement les violences, comme les plaintes qui sont pas prises en considération quand il y a viol, quand il y a agression. Toutes les filles qui sont tuées par des clients qu'on ne recherche jamais. C'est toutes ces violences-là qu'on subit, que ce n'est pas que dans notre pays, c'est pour ça que c'est international. Et il faut qu'on dénonce ça. Je pense que les femmes, au jour d'aujourd'hui, ont vraiment besoin de se défendre de plus en plus contre des tas de choses, et pas seulement dans la prostitution. Je veux dire, voilà, il faut aussi qu'on fasse quelque chose contre ça, contre toutes ces violences.
Ouais. Et en fait, c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, quand ils entendent... journée de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe, ils pensent les clients.
Ce ne sont pas les clients.
Et en fait, au quotidien, les violences les plus fortes que les travailleuses du sexe décrivent, c'est les violences institutionnelles et c'est les violences policières, en fait.
C'est tout
ce qui fait que elles peuvent pas mener une vie comme tout le monde, pour tout ce qu'on a expliqué au tout début de l'émission, sur les conditions de vie, sur les relations avec les gens, etc. Et c'est tout l'arsenal juridique qui leur donne un statut de personne à part, qu'on doit traiter à part. C'est
tout le maltraiter, surtout. Ouais, ouais, ouais. Je pense par exemple, parce qu'il n'y a pas que les travailleuses du sexe, il y a les trans, il y a les travestis, tous ces gens qui se font arrêter par la police et qui sont malmenés dans les commissariats. Je veux dire, ça, on n'en parle pas. Parce que justement, on estime que ils sont trans, donc c'est pas grave. Comme elles sont prostituées, c'est pas grave. Donc c'est tout ça aussi ce qui inclut notre combat. Il est aussi aussi bien interracial que aussi bien en faveur des travestis,
des travestis, des transgenres,
etc. Tout ça, c'est le même combat. Je veux dire, c'est pas uniquement la prostitution en tant que femme. C'est le même combat pour tous. Voilà.
Et du coup, voilà, ce qui nous semble super important, c'est d'insister là-dessus, que les violences, elles sont institutionnelles, et que c'est pas le 20h de TF1 avec le méchant monsieur qui a tapé une prostituée. Parce que si ça, c'est possible que des gens agressent impunément des travailleuses du sexe, c'est bien parce que derrière, il y a un système qui permet ça. Ouais. Et que l'État, c'est un des premiers acteurs de ce système-là, et c'est ça qu'on a aussi envie de dénoncer. Et du coup, il y aura une mobilisation, ça sera mercredi prochain à 15h, et ça sera place Jean Massé, et c'est pas pour rien que c'est place Jean Massé, ouais, devant la mairie.
Nous ont aimé, d'ailleurs.
Devant la mairie du 7e. Et que y a un petit peu l'idée de sensibiliser les gens et de faire venir, de parler aux riverains, en leur disant, en fait...
Il y aura du vin chaud, alors venez, hein.
Oui, c'est vrai, il y aura du vin chaud.
C'est bien pour parler, justement.
Ah, c'est génial, autour d'un bon verre.
Ça délie les langues.
Exactement.
Ça mélange peut-être même des fois les langues.
Oui, on verra. On verra. Et puis du coup, comme il fera froid, parce qu'on est le 17
oui,
décembre,
on sera bien serrés. Donc venez, venez.
Nombreux. Et du coup, c'est aussi pour solliciter les riverains, pour leur dire, vous voyez ce qui se passe dans votre quartier, c'est que pour défendre des intérêts économiques, pour défendre une ville dont on veut qu'elle soit une vitrine pour les touristes, pour tout un tas de choses comme ça, qui est une politique qui n'est pas faite pour les gens, mais qui est faite pour les...
Qui n'est pas faite pour monsieur tout le monde, tout
à fait. Qui est faite ouais. pour l'argent et pour l'intérêt
voilà.
économique.
Le pouvoir.
Le pouvoir et tout ça. Pour mettre en place cette politique-là, on a choisi comme bouc émissaire les travailleuses du sexe. Et ça se passe dans votre quartier, ça se passe à côté de chez vous. Et vous pouvez aussi... Vous pouvez vous placer en solidarité avec les travailleuses du sexe et aussi exiger des gens que vous avez élus qui traitent cette question-là d'une autre manière et qu'ils aient des approches non répressives. C'est vous qui votez, pour ceux qui votent. C'est vous qui mettez
vous
des bulletins.
Vous ne trompez pas cette fois-ci.
C'est vous qui mettez des bulletins dans l'urne. C'est vous qui avez voté. C'est vous aussi qui pouvez faire des retours aux équipes municipales. Donc, sentez-vous concerné. Vous pouvez vous sentir concerné aussi par ce que vivent les travailleuses du sexe qui, de fait, habitent dans le même quartier que vous.
Que vous croisez peut-être au supermarché sans savoir que c'est une prostituée, c'est une madame tout le monde, elle emmène ses enfants à l'école, elle a sûrement un mari aussi parce qu'elle a le droit à avoir une vie sentimentale, c'est pas parce qu'elle est prostituée. Donc voilà, je veux dire, c'est les gens qui côtoient tous les jours. Voilà, la moindre des choses, c'est pas grand chose, mais au moins de soutenir en tant qu'être humain, en tant que personne, ben voilà, des inégalités, on le fait quand c'est à l'autre bout du monde, je vois pas pourquoi on le ferait pas dans son quartier. Et il me semble que déjà, il faut commencer par le quartier pour pouvoir s'étendre sur la surface du monde. Il me semble que ça commence par là, la tolérance. Tout ça, c'est des mots qui veulent... Voilà, il faut qu'il y ait un sens, et ce sens, c'est ce jour-là, c'est le 17 décembre. C'est le jour où on vous demande de venir à notre rencontre. Ma foi, c'est pas désagréable non plus, hein, je crois pas. Donc voilà, on vous demande d'être là, de nous soutenir, de... pas de nous protéger, parce que ça, on sait le faire, mais au moins d'avoir votre aval en ce qui concerne de se poser pour travailler, pour... voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Un peu de soutien dans cette période de Noël, je pense que c'est bien.
Merci beaucoup.
Merci.
Une petite musique.
Allez, on y va.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit Emma, idem le baratin. Jusque dans les baisers, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, résidents les en pleurs. Les mémés, les boulouches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pile idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargnez nouveau glaire. Vénus aux statues creuses, mais la dent conveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mais la dent corveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
Et oui, l'amour c'est du pipeau.
Alors, du coup, en fait, on vient de vous présenter le rassemblement qui va se passer le 17 décembre prochain à 15h, place Jean Massé.
Et on en a un autre.
Surprise.
Surprise.
On en a un autre parce qu'en fait, on espère bien que cette année, d'ici le mois de juin 2015, on aura tout un tas de surprises à vous proposer.
Tout plein, tout plein.
Et parce que du coup, en juin 2015, il y aura les rencontres nationales des travailleuses du sexe qui vont se dérouler à Lyon.
Voilà, on a choisi Lyon cette année parce que c'est les 40 ans de l'occupation de l'église Saint-Nizier. Si les hommes s'en souviennent un petit peu, on fait un vite rappel, donc Hula en 75. C'était un commissaire de police qui avait trouvé une loi qui datait de Napoléon et qui permettait donc de mettre les filles en prison avec des contraintes par corps, c'est-à-dire tant qu'elles ne payaient pas l'amende, elles ne sortaient pas. Oui, oui. Bah, c'est bien pour ça qu'elles ont au bout d'un moment pété un câble. Je pense que là, c'était vraiment trop. Donc ces filles se sont mis en avant, j'allais dire, alors qu'à une époque qui était très difficile, parce que sur les trottoirs c'était pas simple, c'était pas libre non plus, donc elles ont eu beaucoup de courage. Aujourd'hui, cette année, donc, on fête ces 40 ans d'occupation, c'est une date symbolique. Elles ont occupé donc l'église Saint-Nizier du 2 juin au 12 juin, donc une dizaine de jours, elles se sont relayées. Elles n'ont pas été travaillées, donc les clients les cherchaient partout, bien sûr. On a fait notre grève, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, on met ça, je veux dire, un peu au goût du jour, parce que c'est important. C'est vraiment une occupation qui a été mondialement connue, j'allais dire. C'est connu jusqu'en Australie. Moi, j'ai eu des journalistes australiennes qui sont venues m'interviewer en me disant « Mais comment, il n'y a pas une plaque commémorative ?» J'ai dit « Non, l'église Saint-Nizier ne veut pas nous voir, donc de toute façon. » Mais on va quand même aller battre le pavé ce jour-là, parce qu'il me semble que c'est important de souligner un combat aussi dur qu'elles ont eu.
Et de se souvenir, simplement.
De se souvenir, tout à fait. Donc on profite, voilà, en même temps, de faire les rencontres nationales, c'est-à-dire que là, toutes les grosses associations de France se réunissent. Souvent, c'est Paris qui le fait, donc cette année, c'est nous, Lyon, pour ces 40 ans. Et voilà, on voit un peu comment ça se passe à Paris, comment ça se passe à Toulouse, comment ça se passe à Lille, comment elles ont... je sais que Montpellier, je sais que certaines villes de France ont adopté les arrêtés municipaux qui ont été faits. Donc c'est une catastrophe pour les filles qui travaillent. Voilà, ça a été à Bordeaux, ça a été dans des grandes villes.
À Lille.
Lille. Voilà, tout ça, on sent que la France est sur un modèle de répression. Peut-être aussi un moyen de leur prendre aussi un peu d'argent au passage. C'est pas, voilà, c'est très bien aussi, hein. Je pense que ça leur fait du bien. Nous, on avait proposé des solutions. On n'a rien contrepayé, attention, hein. On avait proposé des solutions, mais bon, visiblement, ça leur convient pas. Mais voilà, donc c'est plus simple de mettre des PV, de virer les filles, de faire la chasse. Pendant ce temps-là, on court pas après les voleurs. Donc voilà, c'est encore une fois une aberration totale d'aller taper là où ça fait mal, puisque nous on court pas, hein, donc avec les talons qu'on a, on risque pas, hein. Donc voilà, c'est plus simple de venir nous emmerder à nous, c'est le cas de le dire. Donc voilà, on se réunit, on fait le point un peu sur tout ce qui se passe, Paris, Vincennes, enfin le bois de Boulogne, bois de Vincennes, toutes ces arrestations. Où elles sont mises en prison, où, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, nous on voit passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et il est temps que ça change, quoi. Il faut vraiment que les mentalités changent, et il faut aussi expliquer que, voilà, que, bah, ça fait partie de la vie, les prostituées, ça fait plus de 2000 ans qu'elles sont là. Je pense pas qu'on partira, même s'il y a de la répression, on va pas baisser les bras pour ça, on s'arrêtera pas de travailler pour autant. Je pense que c'est peine perdue le combat qui nous mène. Ils seront épuisés avant nous. Nous, on a l'habitude, hein, donc on a que ça à faire en plus. Donc voilà.
Et simplement pour par rapport aux rencontres, donc ça aura lieu à Lyon début juin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces rencontres, elles sont pas ouvertes à tout le monde parce qu'elles sont réservées aux travailleuses et aux travailleurs du sexe. Alors que les personnes exercent dans la rue, sur Internet, etc. Peu importe, mais c'est réservé aux travailleuses et travailleurs du sexe. Et c'est important que les gens aient un espace en non mixité pour se retrouver, pour aborder les problématiques qu'elles rencontrent dans la vie, en fait. Après, à la fin de ces deux jours d'atelier, donc il y aura des ateliers sur un peu toutes les thématiques, voilà, que les personnes veulent. Ça peut être la santé, ça peut être les droits, ça peut être la répression, la mobilisation.
Comment se déclarer, comment se mettre en règle avec le... le fisc, tout ça. Enfin, bon,
c'est
tout...
une manière aussi justement de provoquer une entraide justement aussi.
Tout à fait.
Vous parliez au début de l'émission.
Ouais. Tout à fait. Ben, oui, après, on n'attend plus qu'ils nous donnent le feu vert. Quoi. On le fait nous-mêmes hein, parce qu'on en a un besoin aussi. Clair. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des associations dans la France qui font un travail énorme. Pour soutenir, donc, avec des fois très peu de moyens aussi, parce que ben, les subventions ne suivent pas toujours. Donc, c'est très difficile, mais enfin, en tout cas, le terrain, ils sont là, ils sont présents. C'est ça aussi, il faut leur donner un coup de chapeau. Et c'est une manière aussi de les remercier, d'être présents dans leur ville, en tout cas, pour aider justement les problèmes que rencontrent les travailleuses du sexe.
Et du coup, en fait, autant cette non-mixité entre travailleuses et travailleurs du sexe, elle est importante parce que c'est un moment essentiel pour créer des solidarités, comme tu le disais, et puis pour voir aussi comment se mobiliser et quel chantier il y a à faire encore. Mais à la fin, il y aura quand même une séance qui va être ouverte à d'autres gens. D'accord. Pour que le contenu des ateliers, le contenu des discussions qui a pour objectif d'être diffusé à l'extérieur, qu'il puisse y avoir un retour sur ce qui a été dit, sur ce qui est important, sur ce que les travailleurs et travailleuses du sexe qui se sont rassemblés, sur ce qu'ils ont envie de dire, de faire passer comme message.
Ce sera relaté par des médias ou...
Eh ben, on espère bien qu'il y aura les médias.
Il y a une conférence de presse qui est prévue à la fin des ateliers, et également, ben, il y a Facebook, ouais. Il y a le Stras, vous pouvez aller sur le site du Stras, vous pouvez aller sur le site de Caberia, vous pouvez aller sur des sites qui voilà, que nous mettons à jour systématiquement, comme nous avons fait la Gay Pride au printemps. Voilà, ce sont toutes des informations qu'on relie avec le public pour essayer de lui faire voir toutes les actions que nous faisons et tout. Donc, rien n'empêche d'aller ces personnes de venir sur le site et puis exprimer leurs besoins, les questions peut-être qu'ils auraient à se poser éventuellement. Voilà, on est ouverte. Hein.
Et simplement, du coup, avant ces rencontres nationales, il y aura des tas d'autres événements qui vont se passer à Lyon. Donc, pour vous tenir au courant, vous pouvez aller voir sur le blog qui s'appelle Putain de rencontres. D'accord. Et c'est sur WordPress.
Voilà. D'accord. Donc, toutes les informations sont reliées comme ça. Mmh. Entre grandes villes et tout ça, nous informons aussi également par ce moyen de communication, donc qui est Internet. Et je pense que l'union fait la force, il ne faut surtout pas l'oublier. Et plus on sera nombreuses, et plus on arrivera à se faire entendre, et plus on fera plier la balance de notre côté. Voilà.
Et simplement, avant de terminer, moi, je voulais juste vous rappeler notre rendez-vous de mercredi 17 décembre à 15h.
Je serai là. Hein.
Pour le vin chaud. Et puis, sinon, je peux aussi vous dire les titres des chansons qu'on a écoutées. On a écouté Am Paranoia, Hacer Dinero. On a écouté Amy Winehouse, You Know I'm No Good. On a écouté Brigitte Fontaine avec Pipo. Et là, on va écouter Cyndi Lauper avec Girls Wanna Have Fun.
Merci beaucoup Karen et Florence pour votre témoignage. C'était super.
Et puis merci à tous ceux qui nous écoutent.
Oui. Merci.
Et à bientôt dans 2 semaines pour une autre émission de l'élite Martine et les autres.
D'accord.